Chapitre 9. Quitter la pensée du provisoire. En 1972, un merveilleux grand-père, la voix tremblotante et les yeux pétillants, nous affirmait « Le Seigneur m'a révélé qu'il allait revenir avant ma mort. » J'avais 17 ans et, avec mes amis du groupe de jeunes, nous écoutions cette prédiction les yeux ronds d'admiration. Bien des prédicateurs, sans donner de date, insistait sur le fait que cette venue était très proche. Cet homme, fort sympathique, s'est trompé. Il est mort et le Seigneur n'est pas encore revenu. Tout disciple de Christ attend impatiemment son retour. Face aux politiques actuelles, bien imparfaites et souvent cruelles, il prie afin que son règne vienne. Cela dit, le danger, pour nous, adolescents, était d'entrer dans une mentalité du provisoire. Pourquoi entamer de longues études? N'est-ce pas inutile, voire incrédule? Bricolons, trouvons un petit boulot qui nous donne de quoi manger en attendant ce jour. Pourtant, une saine attente de ce retour devrait, selon l'enseignement du premier concerné, Jésus lui-même, stimuler notre action dans le monde, la rendre plus efficace et solide. De multiples paraboles indique clairement la disposition que le roi attend de ses sujets à son retour. Il ne veut pas nous trouver les yeux fixés au ciel. « Pourquoi le faites-vous ? » demande l'ange aux disciples lors de l'ascension. Le Seigneur ne veut pas un peuple occupé à regarder en l'air, mais qui agit en son nom parmi toutes les nations. Quand Jésus exhorte ses disciples à lever les yeux, ce n'est pas au ciel, mais sur la moisson, c'est-à-dire sur leurs tâches à accomplir sur terre. La manière de présenter le retour du Seigneur aujourd'hui semble produire tout autre chose. Repli, mentalité du provisoire, désengagement social, négativisme paralysant. On n'est pas d'ici et on repart tout de suite. C'est ainsi que nous livrons la société entre les mains des non-chrétiens. La bricole est assumée par les chrétiens, et la direction de nos cités l'est par les païens. Admettons que Jésus revienne dans 25 ans. Exemple purement fictif. Préférez-vous investir votre vie, vos forces, votre métier dans des projets solides, en développant une mentalité optimiste, offensive et courageuse, ou préférez-vous vivre comme un oiseau sur la branche, guettant à chaque instant l'Antichrist et proclamant que de toute manière, tout ira de plus en plus mal? Quelle attitude hâte le retour du roi? Quel citoyen du royaume honore le plus son souverain? Bien qu'étrangers et voyageurs dans ce monde, nous devons prier que ta volonté soit faite sur la terre. Notre mandat actuel est la gestion de notre planète, non celle du ciel. 1 Pierre 2, verset 11, Matthieu 6, 10, 28, 19 à 20. Tel un footballeur prêt à marquer un but jusqu'à la dernière seconde, avant que l'arbitre siffle la fin du match, le chrétien devrait aimer et servir dans ce monde, et non le négliger au profit du monde à venir. Nous sommes les footballeurs, Jésus est l'arbitre. Il sifflera quand il en recevra l'ordre du Père. Jusque-là, il nous veut entièrement consacrés à faire valoir les talents qu'il nous a donnés. S'il y a un provisoire de Dieu, il est bien plus durable que le définitif des hommes. Si nous comprenons cela, nous nous encouragerons à poursuivre des formations, des études ou des apprentissages aussi complets que possible, en vue de carrières authentiques. Nous éduquerons nos enfants de telle sorte qu'ils se réjouissent de donner leur plein potentiel. Si nous ne prophétisons que le malheur, l'impasse et l'inutilité quant à l'avenir de notre pays, de notre continent et de notre planète, nous détruisons leur courage. Qui investirait sa vie pour le néant? Un prophète a dit, « Les chrétiens ont attiré les chatons, les révolutionnaires ont attiré les lions. » Ceux-ci, avec une conviction à déplacer les montagnes, ont voulu changer la face du monde. Les lions les ont suivis. Les chrétiens ont prêché. Si vous avez compris que ce monde n'a pas d'avenir, que le diable est partout, si vous avez peur de l'avenir, de la guerre et de l'enfer, venez vous réfugier dans notre bateau, Il part très bientôt pour le ciel. Les chatons sont montés à bord. La vision de Dieu est à long terme. J'ai vécu en Côte d'Ivoire et y suis régulièrement retourné depuis. La considération que les policiers, les douaniers et les autorités en général ont à l'égard des missionnaires m'a beaucoup frappé. Cela vient du fait que les collèges et les écoles, les hôpitaux et les dispensaires, les maternités et les pouponnières, les radios et plusieurs institutions spécialisées parmi les meilleures sont nées de l'assiduité des missionnaires. Les chrétiens ont pris leur place et ceci a été hautement respecté. Ils ont certainement aussi commis des erreurs, mais leur ténacité a porté un fruit indéniable. Leur engagement n'avait rien de provisoire. Ils se sont attaqués à des chantiers à long terme que Dieu a honorés. Ils ont été prophétiques par leurs œuvres, à la tête de tous ces domaines et non à la traîne. David, un roi qui connaissait son Dieu, nous présente un royaume qui est tout le contraire d'un bricolage. Chaque tribu a ses propres autorités. Les prêtres, les administrateurs et les juges, les responsables des trésors du temple, les chanteurs et les portiers sont organisés par groupes selon leurs devoirs. Des intendants gèrent les réserves entreposées dans les villes, les villages et les postes de garde. Des responsables ont été nommés pour diriger les ouvriers agricoles et superviser les vignobles, les réserves de vin, les plantations d'oliviers, les réserves d'huile ainsi que les troupeaux de bœufs, de chameaux, d'ânesses, de moutons et de chèvres. Des milliers d'hommes veillent à la sécurité du territoire. L'armée, dirigée par des commandants de compagnie, se compose de 12 divisions de 24 000 hommes chacune. 1 Chronique, chapitres 24 à 27. En de multiples occasions, David démontre son souci de pérennité pour les générations futures. Il proclame que son Dieu est fidèle de génération en génération. L'histoire lui donne pleinement raison. Son message et son œuvre sont si solides que, 3 000 ans après, des millions d'hommes s'en inspirent toujours. Que voulez-vous laisser en héritage aux générations futures? Une fumée qui se dissipe, ou une pierre solide, utile et bien placée? Personnellement, comme évangéliste, l'une de mes espérances est que, par mes messages, écrits, enregistrés ou filmés, des personnes continuent à se convertir à Christ après ma mort. Le travail que Dieu a pour vous peut avoir des répercussions sur plusieurs siècles et même pour l'éternité. La vision de Dieu a toujours un but. Beaucoup d'universités, à cet instant même, forment des gens pour le chômage. Mais Dieu ne forme pas quelqu'un pour rien. Lorsque Jésus a appelé Pierre, le contrat était aussi simple que solide. « Si tu marches à ma suite, je m'engage à faire de toi un pêcheur d'hommes. » Dès le départ, le but est clair et les exigences ne sont pas extravagantes. Jésus ne lui dit pas « Débrouille-toi pour gagner le monde à ma cause. » Pourtant, cet appel avait un but éternel et un objectif terrestre vital. Il en est ainsi de tout travail inspiré. Plus vous vous approcherez de la vision de Dieu dans votre profession, et plus ses buts actuels et éternels vous deviendront clairs et précieux. La vision de Dieu est positive. Un regard négatif sur soi ou sur les autres met en danger notre avenir. Moïse a fortement résisté à l'appel de Dieu pour cette raison. Jérémie se voyait comme un enfant et Gédéon comme insignifiant. Lorsque Nathanaël entend parler de Jésus, il répond incrédule. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Au nom de son expérience, de sa logique, il n'a que des choses négatives à dire. Par contre, quand Jésus voit Nathanaël, il dit « Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Jean 1, 46 à 47. Jésus discernait le formidable potentiel de son futur disciple, comme il voit le potentiel de nos vies. Paul ne méprisait en rien les esclaves. Cependant, il les encourageait, chaque fois que l'occasion se présentait, à devenir des hommes libres. De la même façon, la plus humble place sociale, le plus modeste des emplois, est honorable. mais toujours dans une perspective de croissance, d'initiative et de progrès. Le temps est un ami, non un ennemi. L'Écriture affirme qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, verset 1. Si nous marchons dans le plan de Dieu, nous remarquons que nos activités entrent en harmonie avec le temps nécessaire pour les accomplir. Bien que l'exercice soit difficile et que nous connaissions tous des échecs à ce niveau, Dieu nous permet de l'expérimenter assez régulièrement pour nous faire envie de le vivre. Les théologiens nous diraient que cela est le mariage du temps, chronos, les jours, les mois et les années, avec le temps kairos, le temps de Dieu. Quand ces deux notions se superposent, le temps devient un serviteur. Il perd du même coup sa place de tyran. Le problème de bien des chrétiens exerçant des responsabilités n'est pas leur théologie ou leur moralité, mais leur gestion du temps. Travailler avec Dieu procure une pleine satisfaction. Jésus l'exprime ainsi. « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Jean 4, verset 34. Penser ou dire « Je n'ai pas le temps de faire la volonté de Dieu » est un mensonge. Dieu vous donne tout le temps nécessaire pour une carrière menée en son nom, bien remplie et complète. Celui qui cultive une mentalité du provisoire risque au cours de sa vie de bâtir un hangar. Il choisira tous les éléments nécessaires en fonction de cela. Sa recherche de terrain, ses négociations, ses matériaux, ses ouvriers, sa communication seront empreints de cette vision-là. Celui qui vit comme un fils de Dieu bâtira un château, et tous les éléments nécessaires seront choisis en fonction de cela. Sa recherche de terrain, ses négociations, ses matériaux, ses ouvriers, sa communication seront empreints de cette vision-là. Ce n'est qu'une image, bien sûr, mais elle reflète deux mentalités opposées. Ce proverbe populaire sera ma conclusion. Tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Pour être béni dans votre travail et vous y épanouir, ne construisez pas un hangar, mais un château.